Venons-en maintenant au second chapitre de notre enquête sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale dans notre région. Une enquête qui avait en fait commencé comme un hommage rendu à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, pendant 4 ans, n'ont cessé, souvent, en ne comptant que sur leur propre force, de mettre des bâtons dans les roues nazies.
Confidence pour confidence, nous pensions, au départ tout au moins, que vous faire écouter l'interview de Louis Sempel, ce résistant à la fois héros, à la fois bandit, il faut bien le dire, une interview que nous avions diffusée la semaine dernière et qui a provoqué, à vrai dire, de multiples réactions de votre part. Merci en tout cas pour ces remarques, merci pour ces critiques aussi, merci encore pour les multiples pistes sur lesquelles vous nous avez lancé. Car c'est vrai, ici aussi, rien n'était tout à fait blanc, rien n'était tout à fait noir et rien n'était tout à fait clair. Voici maintenant un autre témoignage. Il s'agit du témoignage de Léon Dupont, un instituteur originaire de Mélin et qui faisait partie de l'armée secrète, on dit en bref l'AS. Je devrais plutôt dire, écoutons sa version des faits, puisqu'il semble bien qu'elle soit loin, très loin, de faire l'unanimité à Jodogne. Léon Dupont.
Il y avait à la fin de la guerre, c'est-à-dire un an avant que la guerre ne finisse, l'armée secrète et les autres, les FI, le Front de l'indépendance. Donc nous étions séparés au point de vue action, mais on s'entendait très bien au point de vue camaraderie, amitié et travail contre l'ennemi.
Et quelle était l'importance de ces deux mouvements, respectivement?
Ah, chez nous, nous avions assez bien de membres. Je peux vous dire qu'il y avait, quand nous sommes allés à Doisseau, 3 pelotons qui comprenaient chacun une 20aine d'unités. Il y avait le secteur sabotage qui était resté sur place, et là, ainsi que le transport. Je peux signaler à peu près 100 de membres dans l'armée secrète.
Dans l'armée secrète. Dans les FI,
il y en avait un petit peu moins. Là, je ne saurais pas vous dire exactement le nombre parce que c'est un autre camarade qui, lui, était président des FI et qui dirigeait ce groupement. Au cours des derniers mois de la guerre, nous avons naturellement reçu pas mal d'ordres de faire du sabotage. Le sabotage consistait à mettre des bâtons dans les roues chez l'ennemi, c'est-à-dire non pas chez l'habitant, ni chez le cultivateur, ni chez personne de notre nationalité, mais surtout de créer des ennuis dans le transport. Et c'est ainsi que le secteur sabotage de la ville, aidé par les autres camarades de la résistance, ont fait pas mal d'actes de sabotage dans les environs. C'est ainsi que nous avons détruit, par exemple, 5 locomotives qui partaient régulièrement de la station vicinale de Jodogne pour emmener les marchandises qui arrivaient en gare de Jodogne vers le champ d'aviation de Beauvechain.
Oui. C'était en quelle année, monsieur?
C'était au début de 1944. Alors nous avons fait sauter des lignes de chemin de fer, ici au pont Allumet, un peu plus loin que la gare de Jodogne. Nous avons fait sauter un petit pont à Dongelbert et d'autres petits sabotages dans la région. Naturellement, vous savez, la population, à ce moment-là, voyait plutôt un mal. C'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas, par exemple, que le train de marchandises ou d'engins militaires qui venait de Liège, qui passait par Jodogne pour partir vers le nord de la France, avait 2 heures de retard à Jodogne, bien entendu.
Est-ce que la population n'avait pas aussi peur des représailles éventuelles des Allemands?
Ah, si. Tout ça se faisait très, très secrètement. Hein. Secrètement, on travaillait la nuit. Hein. C'est ainsi qu'à un certain moment, nous avons fait dans le bois Saint-Pierre, près de Huppé, une cave pour qui servait à la cachette du matériel de guerre, parce que nous ne tenions pas ici d'armes chez nous, hein. On les cachait à l'extérieur. C'est ainsi, si vous connaissez Jodogne, que les revolvers, les engins de guerre, la dynamite, les nougats de dynamite que nous appelons, étaient cachés en face de la maison de M. de Nuit, dans le ruisseau Saint-Jean qui circule au fond de la route près du Châle Blanc.
Et oui, ce matériel-là, vous le receviez d'où, en fait?
Ah, ça, c'était parachuté, ça.
C'était chaque fois parachuté.
Ah oui, c'était parachuté, ça. Hein. Oui,
alors, ça, c'est les années 44, mais je suppose que la résistance est organisée petit à petit. Alors, on peut peut-être revenir en arrière, peut-être même remonter à mai 40. Alors, quelle est la situation ici dans la région?
En mai 40, immédiatement, il y a eu un mouvement qui s'est créé pour résister déjà à l'ennemi, non pas par des actes de sabotage, mais surtout par des renseignements. Il y avait l'Union des services de renseignement d'action qui donnait des renseignements concernant les avions qui arrivaient à Beauvechain, concernant les trains qui passaient sur la ligne de chemin de fer, les camions qui passaient, les régiments qui se déplaçaient, et ainsi de suite, n'est-ce pas, au début.
Et ces nouvelles étaient transmises comment? Elles étaient transmises à Londres et comment?
Ah oui, c'était transmis à Londres. À Londres, ça, on transmettait. On envoyait un rapport à un chef qui transmettait le rapport de fil en aiguille. Ça arrivait à Londres parce que n'oubliez pas qu'il y a eu pas mal de gens de Londres qui ont été parachutés en Belgique. Hein.
Bon, sommes en 40, il y a un petit groupe d'hommes qui se dit...
Qui
dans la résistance et qui s'organise comment, finalement?
Qui s'organise comment? Eh ben, comme une société s'organise, hein, avec un président, avec des petites réunions en secret, tenues chez l'un... des amis. Je dois vous dire personnellement que je ne faisais pas partie de ce groupement au début de la guerre. Hein. J'ai fait partie de la résistance à peu près 2 ans avant la guerre.